BFM Business. Midi, l'heure H. Erwan Morris.
3 milliards, c'est le chiffre dévoilé la semaine dernière, fin de semaine dernière, par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui correspond à la somme qui sera réservée aux PME qui souhaitent investir après la crise de la Covid-19. Le montant global attribué au soutien des PME sera, lui, beaucoup plus important, rappelait une nouvelle fois ce matin sur notre antenne le ministre délégué Alain Griset. Bonjour Patrick Martin, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le président délégué du MEDEF. Le gouvernement, je le disais, doit présenter l'ensemble de son plan de relance à 100 milliards d'euros, hein, ça doit être, la date est fixée au 25 août prochain. D'abord, Patrick Martin, à 3 milliards d'euros pour soutenir l'investissement des PME. Est-ce que, selon vos calculs, ça va être suffisant?
D'abord, on en saura beaucoup plus. Le MEDEF aura la primeur, en quelque sorte, de l'intervention de Jean Castex, mais également de Bruno Le Maire et d'Elisabeth Borne, à l'occasion de notre renaissance des entreprises de France à Longchamp le 26 et le 27 août, donc dès le lendemain de ce Conseil des ministres qui détaillera le plan. Ce que l'on comprend des 3 milliards à ce stade, hein, c'est que ce sont des garanties qui seraient apportées par l'État, probablement dans le cadre d'un dispositif BPI, qui aura un effet de levier considérable pour refinancer les PME. Mais il faudra aller bien au-delà, dans une logique de redémarrage de l'économie à laquelle le MEDEF est strictement attaché.
Est-ce qu'il va y avoir là des négociations avec vous dans les prochains jours, avec l'ensemble des partenaires sociaux, avec le MEDEF sur ces sujets-là? Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? C'est quoi pour vous là la grande priorité de ce plan?
La grande priorité, c'est de sécuriser les entreprises et de leur donner de la visibilité, au-delà de l'aspect évidemment central de la sécurité sanitaire. Et donc, il faut qu'il y ait plusieurs poches qui correspondent à différents besoins. Typiquement, il va falloir refinancer dans un certain nombre de cas des PGE, des prêts garantis par l'État. Il va falloir accompagner des investissements parce que les entreprises doivent continuer à se projeter dans l'avenir. Et donc, il faut qu'en face des différentes tailles d'entreprises, des différentes situations d'entreprises, on ait d'une part des prêts participatifs avec une garantie de l'État en partie, et puis d'autre part des fonds propres ou quasi-fonds propres. Et il y a donc deux initiatives auxquelles le MEDEF travaille avec la Fédération bancaire française, avec la Fédération française des assurances, et qui sont en train de se préciser, qui devraient, en termes de montant et en termes d'allocation des ressources, correspondre aux réels besoins des entreprises.
C'est donc sur ces sujets-là que vous ne voulez pas céder, Patrick Martin, il n'y aura pas de compromis?
Il ne s'agit pas de céder. Je crois qu'on est tous tendus vers les mêmes objectifs, de sécurisation de l'économie et des entreprises, mais de redémarrage de l'activité. Et pour l'instant, la qualité du dialogue avec les pouvoirs publics est réelle. Malgré la parenthèse estivale, les travaux continuent, les échanges sont très denses et on s'oriente vers des mesures qui nous paraissent appropriées.
On est en ce moment dans une période où le destin des TPE-PME françaises est en train de se décider, en tout cas pour les années à venir. Vous hochez de la tête, vous êtes d'accord avec ça. On parle beaucoup des PME, Patrick Martin. Est-ce que les ETI, entreprises qui ont jusqu'à 5000 salariés, ne risquent pas d'être, d'une certaine manière, les grandes oubliées de ce plan? Est-ce que c'est une source de préoccupation aussi pour le MEDEF?
Non, il y a déjà des éléments de réponse. J'évoquais des apports en financement, en fonds propres. Il y a déjà une initiative prise pour l'aéronautique, elle est bien nécessaire, une initiative prise pour la santé, une autre initiative prise pour le tourisme. Les ETI vont être impactés également, mais de manière très différenciée selon les secteurs. Il ne faut pas oublier que les services également sont très impactés. On parle beaucoup de l'industrie. Mais non, on pense que les chefs d'entreprise ont bien pris conscience de la situation, sont plutôt dans une logique combative. Après, il y aura des situations défensives à gérer et c'est là qu'on va retomber sur ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire la nécessité de consolider et de pérenniser un certain nombre de financements. Il y a déjà des mesures qui ont été annoncées pour les TPE s'agissant de reports, voire d'annulation de charges. Ce sont des mesures opportunes. Mais il va falloir également que les entreprises dont la rentabilité est considérablement affectée par cette crise puissent perdurer, qu'on évite une avalanche de défaillances et puis continuer à investir, notamment dans la perspective du nécessaire verdissement de notre économie à laquelle le MEDEF est très attaché.
Vous parliez des aides justement sur les prêts garantis par l'État, les PGE. Est-ce que vous êtes favorable à l'allongement sur la durée, aller au-delà des 5 ans, comme le réclame d'ailleurs l'UDP qui se dit on pourrait peut-être aller jusqu'à 10 ans. La barrière, a priori, serait européenne pour l'instant. Il va falloir discuter avec l'Union européenne là-dessus.
Oui, alors de toute façon, ça peut déjà aller jusqu'à 6 ans parce qu'on a une première année de différer, ensuite une possibilité de remboursement sur 5 ans. Mais je pense qu'il sera plus intéressant de mettre en place pour les entreprises qui en auront besoin, hein, et ce n'est pas la généralité, des prêts participatifs tels que je les évoquais tout à l'heure, avec une garantie partielle par l'État, mais ce n'est pas au système bancaire de porter durablement des PGE dont la maturité serait prorogée jusqu'à 10 ans. Ça doit prendre une autre forme, mais la solution à nouveau est en train de s'esquisser et elle semble pertinente.
Donc là-dessus aussi, les discussions se poursuivront. Un mot pour terminer avec vous, Patrick Martin, sur le port du masque en entreprise. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, donne rendez-vous demain, donc mardi, aux partenaires sociaux pour échanger sur le port obligatoire du masque en entreprise. Quelle sera la position du MEDEF là-dessus? Est-ce que vous avez, vous aussi, des propositions à faire sur ce sujet?
D'abord, les entreprises, évidemment, se conformeront aux consignes sanitaires de l'État. Elles l'ont fait jusque-là, c'était reconnu par les salariés. Il y a eu 7000 accords d'entreprise sur le déconfinement. Donc, on s'adaptera. Nous, ce que l'on craint, malgré tout, ce sont des mesures très uniformes, s'appliquant à toutes les entreprises, quelle que soit leur localisation, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité. Et donc, on va insister pour que les nouvelles mesures qui semblent nécessaires, malheureusement, soient pragmatiques et laissées en bonne part à la main des partenaires sociaux.
Bon, dialogue avec les partenaires sociaux et du cas par cas dans les entreprises, on a bien compris. Voilà. Un grand merci, Patrick Martin, d'avoir été merci avec nous en duplex, président délégué du MEDEF. On va tout de suite retrouver notre deuxième invité sur ce sujet, chef d'entreprise qui est en ligne et qui vous a écouté, Patrick Martin. Bonjour, Benoît Gilman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes PDG fondateur de BioUV Group, leader français du traitement de l'eau par ultraviolet. Réaction d'abord à ce que disait Patrick Martin, président délégué du MEDEF, là, que vous avez écouté.
Bah écoutez, je partage pas mal d'avis pragmatiques et concrets et précis. Effectivement, les entreprises se battent, les entreprises sont combatives, les entreprises et les chefs d'entreprise sont sur le pont, vacances ou pas. Et ce qui serait bon, très très bien, c'est qu'on sorte d'un climat anxiogène qui n'est pas forcément justifié. Effectivement, il y a un souci, il faut le prendre en considération, soyons un peu moins latins, ayons un peu plus d'hygiène et les choses se passeront. Il n'y a pas de mort aujourd'hui, les réanimations ne sont pas pleines, très loin de là. Et effectivement, je crois qu'il faut vraiment sortir de ce climat, que ce soit en France ou ailleurs.
Le climat est anxiogène pour vous, Benoît Gilman, on vous fait peur à tort?
Ah non, mais moi, on ne me fait pas peur et je pense que les collaborateurs de BioUV n'ont pas peur. On progresse, on fait de la croissance, on s'est adapté. On a même créé une gamme de désinfection de surface, non pas par opportunisme freiné, mais pour rendre service à beaucoup de gens. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est pas une question de peur. C'est qu'il y a un vrai sujet que sont les emplois. En général, les PME et TPE sont créatrices d'emplois. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, grandes ou petites, et peut-être pour une fois, plus les petites, qui sont dans une situation très compliquée dans pas mal de secteurs. Et ça, si vous voulez, sur le plan économique, c'est fondamental. Il est urgent de prendre les bonnes dispositions. On va parler des 3 milliards ou plus.
Oui, justement.
Mais si vous voulez, je pense que c'est vraiment, la psychologie est fondamentale.
Est-ce que c'est assez ambitieux, là, d'après ce qu'on a pour l'instant? On n'a pas encore tous les éléments, bien sûr. On aura tous les détails le 25 août. Il va encore y avoir des négociations, des avancées sur ces sujets-là. Vous, qui êtes chef d'entreprise, Benoît Gilman, comment est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous êtes rassuré, optimiste?
Alors, comme vous venez de le dire, et comme le président délégué du MEDEF l'a dit, on n'en fait pas plus. C'est-à-dire que 3 milliards, pourquoi pas 15? Pourquoi? Enfin bref, je veux dire, on ne peut pas non plus tout attendre de l'État. Oui, il faut effectivement un soutien massif et une aide massive, mais une aide qui soit intelligente et précise. Donc le 26, on en saura plus. Ce qu'il faut, c'est aller vite et être précis, pragmatique, le bon sens paysan. Et là, on avancera et je pense que les entrepreneurs, quels qu'ils soient, seront utiliser ces dispositifs. Maintenant, on ne sait pas aujourd'hui de quoi on parle réellement. Oui. En tout cas, ce n'est pas arrivé jusqu'à nous.
Donc vous attendez ce que d'ici là, le 25 août, le gouvernement soit très clair sur ce qui, la direction qu'il va vouloir donner à ce plan de relance. Est-ce que vous avez eu, vous, recours, Benoît Gilman, à des aides de la part de l'État?
Alors, d'abord, on n'a mis personne au chômage technique. Ça, c'était un souhait de ma part. Oui. Bon, je dis, on peut se débrouiller, on va se débrouiller. Par contre, nous avons utilisé le PGE, nous avons utilisé le report de charges, effectivement, puisque à partir du début de l'année, de février-mars, on ne savait pas trop où on allait. Tous, pas que nous, mais il y avait un carnet de commandes qui était là. Donc, si vous voulez, on a pris certains dispositifs, on a mis personne au chômage partiel, il y a à peu près la moitié du personnel qui venait travailler à l'usine.
Combien
pour
de salariés ?
Honorer nos commandes. Aujourd'hui, c'est 80 en France et 35 en Écosse.
Est-ce que vous allez être en mesure de rembourser les aides dont vous avez pu bénéficier ?
Alors oui. Alors surtout, faut pas faire de notre cas une généralité. Effectivement, on sera en mesure, on gère notre trésorerie, on gère nos dettes. Je voudrais insister sur un point, le PGE est une dette. Alors j'entendais le président délégué du MEDEF qui en parlait, et à très juste titre, sur quelle durée, etc. Nous, en tout cas, on va regarder ça de très près. Oui, on va prolonger, on va regarder sous quelles conditions. C'est effectivement un prêt, en principe, à des taux intéressants. Et ça nous permet de gérer intelligemment ce moment, et puis de gérer d'autres choses. Donc, si vous voulez, le PGE est un très bon dispositif. Apparemment, il a bien fonctionné. Ouais. Ça reste une dette. Ne rêvons pas.
Benoît Gilman, d'un mot, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Vous avez la parole sur BFM Business. On vous la donne là pendant 5 minutes. Le président délégué du MEDEF était avec nous. Le gouvernement est en train d'avancer sur ce plan. Quel message, vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez envie de leur faire passer ?
Ben d'abord, j'ai beaucoup de considération pour tous mes confrères et collègues et tous leurs collaborateurs. La vie n'est pas simple pour tout le monde. Il y a des boîtes qui vont super bien. Il y a des boîtes qui vont moins bien. On fait partie de la première catégorie et on fait tout pour. Après, restons très vigilants, restons très prudents. Et surtout, que ce soit avec le MEDEF ou tous les partenaires possibles, on a un gros challenge devant nous. On peut parfaitement le relever. On a des atouts, la France a des atouts, les entreprises ont des atouts, les collaborateurs sont intelligents aussi. Allons-y. Mais surtout qu'on ne nous mette pas la tête pour des raisons psychologiques. Ouais. Il y a encore des gens qui ont des craintes. Il y a encore des gens qui veulent rester en télétravail, qui veulent rester chez eux, qui ont peur de retourner en entreprise. Ça, c'est très embêtant. C'est très embêtant et surtout, ça n'est plus justifié.
Bon,
soyons prudents, mais avançons.
En 30 secondes, Benoît Gilman, président de BioUV Group, sur la question du masque en entreprise, puisque ce mardi se retrouveront autour d'Elisabeth Borne au ministère du Travail les partenaires sociaux pour discuter de éventuellement l'obligation du port du masque en entreprise. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ?
Alors mon avis va être simple, il y en a marre des obligations et des lois. Les entreprises, les collaborateurs et les chefs d'entreprise ne sont pas des idiots. Et ont su prendre les mesures. Donc, à partir de là, tout ce qui va être
20% des clusters aujourd'hui, Benoît Gilman, sont a priori dans les entreprises, alors qu'on est au mois d'août.
Ok. Alors, il y a 300 fois plus de tests qui sont faits, et il est normal qu'il y ait plus de cas positifs. Ceci dit, la plupart des cas sont tout à fait non. Les gens ne sont pas malades. D'accord. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on me parle des clusters, etc. Je vous dis simplement, dans les entreprises, en tout cas dans un certain nombre, je rejoins complètement ce qu'a dit le président délégué du MEDEF. Faisons aussi confiance aux entreprises. Donc, mettons peut-être quelques règles, je dirais, de bon sens, mais qu'on avait déjà pour la plupart.
Très bien.
D'accord ? De là, imposer le masque à tout le monde, dans toutes les entreprises, d'abord, c'est pas possible. Tout simplement parce qu'il y a des jobs où c'est pas possible. Mmh. Mais on est capable de garder des distances, on est capable de se laver les mains, on est capable de mettre des masques quand c'est nécessaire.
Bon, il faudra du cas par cas et laisser la responsabilité aussi.
Exactement.
Aux entreprises. Merci beaucoup, Benoît Gilman, d'avoir été avec nous sur tous ces sujets d'actualité. Je rappelle que vous êtes PDG fondateur de BioUV Group. Restez avec nous dans un instant. Nous retrouvons le spécialiste des transports, Jean-Pierre Cornu. On revient avec lui sur le redémarrage de l'industrie automobile. Et tout ça part de la Chine. À tout de suite. On retrouve notre invité, on va continuer à parler d'automobile avec Jean-Pierre Cornu, qui était en ligne avec nous tout à l'heure. La connexion était mauvaise et pour votre confort, nous avons préféré interrompre l'interview et pour la reprendre maintenant. J'espère que la liaison va être un petit peu meilleure. Jean-Pierre Cornu, on parlait de... Oui, vous êtes avec nous, merci. On parlait de la Chine. Un mot sur la France, puisqu'on a aussi de l'actualité de ce côté-là. Du côté de PSA, précisément, l'usine de Rennes tourne à nouveau à plein régime. Ils ont décidé de recruter 500 intérimaires. 250 arrivent aujourd'hui. Là aussi, c'est plutôt un signe positif et ça montre qu'on suit aussi la tendance chinoise qui nous précède un petit peu.
Oui, alors je pense qu'il y a, un optimisme sur le marché automobile en France, qui s'est traduit d'ailleurs aussi par une augmentation très importante au mois de juin du vente des véhicules d'occasion. Donc il y a eu de toute évidence une attente pendant ces 6 premiers mois de l'année. On sait tous que le taux d'épargne des ménages a augmenté et donc les décisions d'achat ont de toute évidence été reportées et on va connaître vraisemblablement dans les prochains mois une certaine forme d'euphorie sur le marché de l'automobile, largement due, et il faut être très prudent, au rattrapage de consommations qui ne sont pas faites ou à des immatriculations de véhicules commandés avant la crise. Mais il est vrai que l'industrie automobile française se défend bien. PSA, Renault, en dépit des difficultés structurelles de Renault dont on a souvent parlé, ont connu connaissent un milieu d'année assez positif et avec des nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché. Il faut vraiment noter aujourd'hui que l'électrification de l'offre française est parfaitement en place, avec des véhicules électriques à batterie ou des véhicules hybrides rechargeables que l'on va trouver aussi bien chez PSA que chez Renault. Donc il y a maintenant dans les concessions de quoi satisfaire les consommateurs qui ont envie d'avoir des véhicules du 21e siècle, c'est-à-dire électriques et largement connectés.
Et justement, est-ce que cette crise sanitaire de la Covid-19, Jean-Pierre Cornu, n'a pas aussi été un boom, un accélérateur pour le véhicule électrique? On voit encore dans les chiffres qui nous sont communiqués ces jours-ci, plus 19% à presque 100 000 véhicules qui sortent des usines chinoises après 12 mois de baisse. Ça y est, ça repart. Et puis, l'électrique est en tête finalement.
Ah oui, alors l'électrique en Chine marche très bien. Vous savez que c'est le choix structurel de ce pays. Sur le plan de toutes les technologies qui concourent aux véhicules électriques, parce que il y a évidemment les batteries, mais il y a aussi les moteurs, il y a toute l'électronique embarquée. La Chine a décidé de faire de ces technologies une de ses priorités. C'est aussi ce que l'Europe essaye de faire. Il faut reconnaître que on est dans la même tendance. Et alors, ce qui est amusant, c'est que la voiture électrique la plus vendue en Chine au mois de juillet, c'était la Tesla Model 3.
Ah oui, parce qu'il y a aussi une montée en gamme. Non seulement il y a l'électrification, mais il y a aussi une montée en gamme.
Alors, ce qui est intéressant également, vous avez dû le voir, que la firme MG, qui est une vieille marque qui a été rachetée par les Chinois en 2005, sort un SUV très abordable à moins de 30 000 euros sur le marché européen. Donc l'offensive économique des constructeurs chinois sur l'électrique commence à se faire valoir en Europe.
D'un mot très rapidement sur le volet de l'emploi, puisque c'est aussi au cœur de l'actualité aujourd'hui, Jean-Pierre Cornu, le premier syndicat allemand, IG Metall, qui représente 2,3 millions de salariés, propose d'ouvrir des négociations sur la semaine de travail de 4 jours afin de limiter la suppression d'emplois dans l'industrie automobile. Est-ce que c'est une solution à généraliser selon vous pour préserver l'emploi ?
Vous savez que l'industrie automobile est une industrie hautement robotisée. Et il est certain qu'en montant en gamme dans la robotisation, on a besoin de travailleurs mieux formés, plus compétents, et peut-être et certainement de moins d'heures de travail hebdomadaire. Donc c'est une piste qu'il faut observer, je dirais pratiquement usine par usine, modèle par modèle, pour effectivement continuer à disposer d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et à produire des voitures compétitives et attractives en Union européenne.
Très clair. Merci beaucoup Jean-Pierre Cornu d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet SIA Partners, spécialiste des transports. Merci d'avoir été sur BFM Business.